cette question qui paraît un peu étroite quand même, hein, la question de l'évolution au temps du Front populaire, ça paraît un petit peu étroit, et pourtant, derrière, il y a des questions historiques et des questions politiques qui sont sans doute riches et qui peuvent être peut-être en doute instructives, disons, pour le temps présent, pour réfléchir à tout cela. Donc, je voulais remercier le MJCF pour cette invitation, et puis donc dire un tout petit mot de qui je suis moi. Dans le programme présenté comme rédacteur en chef de la revue du projet, donc, et la revue du Parti communiste, c'est vrai, c'est pas faux, il n'y a pas d'erreur sur le programme, mais on aurait pu dire aussi, je pense que c'est plutôt à ce titre-là qu'on m'a demandé d'animer cet échange, c'est parce que j'enseigne l'histoire et je suis doctorant en histoire contemporaine, et puis je participe à la rédaction de cette revue que vous connaissez peut-être, qui est une revue qui a certaines relations avec le mouvement progressiste. Ça s'appelle Les Cahiers d'Histoire, qui est une vieille revue dont on a fêté la refondation, les 40 ans de la refondation là, il y a quelques mois maintenant. Et vieille revue d'ailleurs à laquelle
vieille revue, ouais. Bonne intro, une bonne intro.
Mon voisin vient aussi participer.
Quand elle était jeune, moi aussi.
C'est ça. Et là, c'est le dernier numéro que je présente ici, que j'ai coordonné avec une autre camarade qui s'appelle Un autre sport, donc qui interroge justement la relation du mouvement ouvrier avec le sport, qui n'est pas une petite question parce que le sport c'est quand même une pratique très populaire, et est-ce que nous, communistes, nous avons une position par rapport au sport, une pratique différente du sport, une utilisation collective du sport? Alors, il y a beaucoup de questions autour de ça, ça paraît un peu lointain, mais là encore c'est pas si lointain que ça par rapport aux objets qui nous intéressent. Mais ce n'est pas le but du jour, donc j'ai fini la promotion, et donc je vous passe maintenant la parole à Serge Volikov, qui est professeur émérite des universités, pour dire les choses très officiellement avec les statuts d'histoire contemporaine. Et puis quoi d'autre encore, dire que c'est un spécialiste très important du communisme, et notamment du communisme international, hein, puisque un de ses derniers ouvrages, voire peut-être le tout dernier, le dernier ouvrage, pour en parler, portait sur l'international communiste. Sa thèse d'État, donc des choses énormes qu'on faisait avant, donc qui font des centaines et des centaines et des centaines de pages, et bien, donc un levé de recherche qui retire des années et des années et des années, et bien porté justement sur la relation entre le Parti communiste français et l'international communiste, donc une réflexion très ancienne, donc ce qui fait que Serge Volikov est un des meilleurs connaisseurs de l'international communiste et surtout dans cette période de l'entre-deux-guerres. Et puis par ailleurs, pourquoi Serge Volikov? Pas seulement parce qu'international communiste, qui permet d'avoir une vue d'ensemble, mais aussi parce que Serge Volikov a consacré beaucoup de son temps de travail historien à la question et à la période du Front populaire, puisqu'il y a eu plusieurs ouvrages signés Serge Volikov sur la question, un ouvrage important aux éditions Complexe, qui était à l'occasion de l'anniversaire, comme souvent au Front populaire, et puis un autre ouvrage important aux éditions Sociales, ressuscité d'entre les morts, etc. Donc, aux éditions Sociales, un ouvrage coordonné par Serge Volikov, Jean Vigreux, un de ses élèves qui maintenant est professeur des universités à l'université de Dijon, et puis Xavier Vignac, qui est un autre historien de Bourgogne. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais comme ça, au moins, ça vous situe, et puis ça a permis à la direction du Parti communiste français d'arriver et de vous rejoindre. Voilà. Serge, je t'en prie.
Je suis tout à fait impressionné. Je suis très impressionné par l'audience, parce que moi, je m'étais préparé avec l'idée que, c'est un truc d'histoire, j'ai regardé le programme de cette université d'été, et je trouvais que le rapport à l'histoire, à la mémoire était on va dire léger, hein, et que vous avez là une séance vraiment forte sur ce point. J'étais d'autant plus marqué par ça que je reviens du Burkina Faso début de la semaine, et que j'ai passé avec l'ensemble des centrales syndicales et des partis politiques du Burkinabé une semaine. Ils avaient fait un séminaire sur la mémoire, l'histoire et leurs archives du mouvement à la fois des grèves et des mouvements syndicaux et politiques dans la situation actuelle du Burkina. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un monceau de problèmes, c'est peut le dire, à une passe du temps en tant qu'organisation, avec le secrétaire général de la Confédération et les dirigeants du parti qui étaient là pour parler de leur mémoire, de leur archive, etc. Mais en même temps, de revisiter ça, parce que c'est un petit peu, si j'ai bien compris, parce que je ne savais pas bien au départ comment caler mon topo avec vous et comment organiser la discussion, en quelque sorte, un atelier qui a le souci de nouer le passé et le présent, puisque dans les préoccupations politiques du communisme français actuel, le mot Front populaire ou Front de gauche, ou tout ce qui est les logiques et les débats autour des fronts, et des alliances, donc, et des modes d'organisation de l'action commune et en même temps est redevenu d'actualité. Je peux vous dire que c'est un peu comme un système, vous voyez, comme vous avez des courbes là, avec des fluctuations, il y a des moments où on se repose la question des fronts, il y a des moments où c'est chacun pour soi. Hein, et en réalité, c'est les deux à la fois. Hein, c'est plus complexe que ça historiquement. Mais en tout cas, la question du Front populaire reste une référence forte dans l'histoire nationale, d'ailleurs, et dans l'histoire internationale, pour le meilleur et le moins bon. Hein. Quand, justement, puisque j'étais au Burkina, quand Sankara a pris le pouvoir, a fait la révolution Sankara en 1983, il met en place la révolution et il décide de créer le Front populaire et liquider les syndicats. Avec des comités de la Révolution, etc. Ça a un lointain rapport avec le Front populaire, parce que le Front populaire en France, aujourd'hui on dit souvent la politique c'est les partis, les mouvements et puis les syndicats c'est autre chose. Le Front populaire en 1934, c'est une structuration qui va se faire avec le mouvement syndical, les associations, une centaine d'associations qui vont se réunir après dans le Front populaire. Mais l'originalité, c'est que l'initiative politique est venue d'un mouvement politique qui était le plus petit parti de la gauche, qui était le Parti communiste. Et quant à la JC, au moment du début du Front populaire, c'est 4000 adhérents pour toute la France. Vous voyez. Le Parti communiste, c'est moins de 40 000 adhérents. Et 3 ans plus tard, la JC, c'est plus de 100 000 adhérents. On est passé de 4000 à 100 000 adhérents. Et le Parti communiste, il est passé de 40 000 à 300 000 à peu près adhérents. Hein. Et la jeunesse socialiste, les jeunesses socialistes, qui étaient plus puissantes que le parti, que la jeunesse communiste, au départ, avec à peu près 60 000 adhérents, va se renforcer, mais moins que la JC. Par contre, l'organisation ouvrière jeune la plus forte à cette époque, c'est la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, mais qui était en quelque sorte perçue comme, au départ, c'est pas un ennemi de classe, mais c'est autre chose, quoi. C'était vraiment... Et donc, il s'est passé quelque chose, là, puisque en l'espace de quelques années, à la fois dans les rapports de force entre organisations, mais aussi dans le positionnement de la JC dans l'espace politique national et français, il y a eu des bouleversements importants. Alors, comme je disais à ceux qui étaient là avant que tout le monde n'arrive, je m'étais posé la question parce que on fait référence au Front populaire et en même temps, bon, je sais que c'est vachement enseigné au lycée, hein, très très bien enseigné, c'est bien connu. À l'université, n'en parlons pas, les luttes sociales, le mouvement ouvrier, tout ça, tous les jeunes connaissent ça par cœur. Mais enfin, parfois, il y a des trous, quoi. Hein. Et donc, il faut me dire franchement, si vous en savez trop sur le Front populaire, j'en dis rien et je suppose tout ça connu. Sinon, je prends 5 minutes pour faire poser le décor, quoi. Hein. Qu'est-ce que vous me dites, franchement?
Poser le décor.
Voilà, vous voyez, j'y vais doucement, hein, je pose le décor, hein, d'accord. C'est sur, parce que c'est un décor à la fois politique national et c'est un décor international. Vous savez, souvent on dit aujourd'hui c'est mondialisé, la politique, on peut pas se passer des événements internationaux. Ben, ça c'est le genre de découverte qui n'est pas une, qui est une erreur totale, parce que les années 30, le fascisme allemand, le fascisme italien, la présence de l'Union soviétique, la crise économique mondiale, c'est le paysage, hein, c'est le paysage de la politique. Alors vous allez me dire, oui, mais à ce moment-là, il n'y a pas Internet. Okay. Il n'y a pas la télé, il y a la radio qui commence, d'accord, oui. Oui, sauf que les gens lisent les journaux. Et ils ne lisent pas les journaux comme aujourd'hui, une fois de temps en temps, en regardant un écran, ou quand il y a un copain qui a le journal, etc. Non, là, on a la France, c'est le pays du monde où on lit le plus les journaux. Après, et l'UMA, l'avant-garde, c'est des journaux qui tirent à des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires. Il faut bien voir ça. C'est-à-dire que la politisation passe par la lecture des journaux, entre autres. Donc, il faut baisser un pays politisé, le taux de participation aux élections. Alors, bien sûr, les femmes ne votent pas. Le suffrage n'est pas vraiment universel. Les jeunes ne votent pas. Parce que le droit de vote, c'est seulement à 21 ans. Enfin, quand je dis les jeunes, vous voyez bien ce que je veux dire. La jeunesse, et on va parler, qu'est-ce que c'est la jeunesse à ce moment-là, hein, problème aussi. Mais en tout cas, quand ils votent, les taux de participation, c'est 75-80% des exprimés. On a un taux élevé de participation électorale. Il y a la bataille pour le droit de vote pour les femmes, il y a aussi la bataille pour le droit de vote pour les jeunes, hein, que mène la jeunesse communiste, que mène le parti communiste, et le droit de vote pour les femmes, c'est seulement après le Front Populaire, parce que dans le Front Populaire, il y a des alliés, les radicaux, qui ne veulent pas le droit de vote, et ils disent les femmes, elles vont voter comme les curés, parce qu'elles sont sous l'influence de l'Église, etc. Ce qui n'est pas totalement faux, mais enfin, vous savez qu'aujourd'hui, dans le vote politique en France, c'est les femmes qui votent nettement plus à gauche que les hommes, hein, comme quoi il faut laisser du temps, non pas autant, mais il faut que l'expérience politique se fasse, et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, quand les femmes ont le droit de vote, elles vont voter globalement, sans faire basculer à droite, les votes de la Libération seront des votes marqués par un déplacement à gauche, mais simplement ce qu'il faut dire, c'est que le premier droit de vote des femmes et des ouvrières et des jeunes, c'est dans les usines après les grèves de 36. C'est dès 1936 que les femmes vont avoir le droit de vote pour élire les délégués du personnel. Et elles sont dans les accords Matignon, les accords et que le mouvement ouvrier porte là où il est fort, et une législation qui va donner le droit de vote aux femmes dans le domaine syndical, social et dans l'entreprise, avant que ce soit dans la société. Vous voyez, je commence à m'égarer dans des parenthèses. Mais enfin, bon. Donc, le cadre, le décor. Hein. Venons sur le décor. On peut brancher le truc, là, parce que pour le décor, ça va vite, comme ça, en fait, on a une heure et demie, même pas une heure et demie, là. Jusqu'à quelle heure on a ?
On a...
Parce qu'après, il y a une... Hein ?
17h45,
ça nous fait 60 minutes, quoi, 70 minutes, même pas, 1h10, donc il faut que j'aille très vite, parce que je veux vous laisser du temps pour les questions, le débat. Moi, il faut que je fasse un topo qui soit pas qui se termine vers 5h15, pour que vous ayez le temps, qu'on ait le temps de discuter. Je m'impose des obligations, comme ça vous allez me faire signe, certainement. Alors, bon, donc le cadre, comme je disais, la France du Front Populaire, c'est pas 65 millions d'habitants, c'est 42 millions d'habitants. C'est pas majorité dans les villes, la majorité des gens vivent dans les campagnes encore, dans des villages. Hein. Est-ce que ça va marcher mon truc ?
Ça marche. Très bien, ça va.
Non, il faut que c'est pas toi, ça, c'est moi.
Non, t'as raison.
Il faut que je fasse une bascule.
Je meuble un peu. Depuis 1931, effectivement, il y a eu le dernier recensement de 1931. Officiellement, il y a plus d'urbains, mais pour la première fois, que de ruraux. Mais quand on regarde le détail des urbains, c'est 2000 habitants. Donc, je dis, bon, vous voyez, village, 1999, ville, 2000 habitants. Non, mais en fait, quand on regarde le détail de 1931, c'est bon.
Attends, oui, c'est
bon. Je continue. Donc, quand on regarde le détail, en fait, voilà. Vous avez une France qui est majoritairement rurale, soit dans des villages stricto sensu, soit dans des petites villes. Donc, en fait, on est encore une France qui est très marquée par la ruralité, et avec une place dépaysant qui était encore très importante. Donc, classe ouvrière qui est importante, mais une paysannerie
si,
qui est
si
importante.
Si tu baisses le truc, c'est bon.
On va tâcher de régler ça.
Je baisse pour... Bon, alors donc, simplement, si on prend le front... Attends, je vais le mettre en, vraiment en diaporama, ça sera plus simple. Si ça marche. Voilà, c'est mieux. Alors donc... la caractéristique, c'est le contexte du nazisme, du fascisme. Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, faut jamais oublier ça. Les mouvements de jeunes, les mouvements grévistes, enfin les mouvements syndicaux, la gauche était majoritaire en Allemagne. Elle était majoritaire, mais divisée. Et Hitler a pris le pouvoir avec un coup de force avec l'armée, avec les milieux bancaires, etc. Mais ensuite, il liquide toutes les libertés. Ça a un effet très fort sur la France. Parce qu'en France, comment éviter le fascisme? C'est cette question. Et tirer les leçons de ce qui s'est passé en Allemagne. Et deuxièmement, le Front populaire, c'est, alors que c'est la crise économique, le chômage, dans toute l'Europe et en France, la crise est arrivée plus tardivement en France, mais, comme aujourd'hui, elle dure plus longtemps. Et donc, on a un phénomène inattendu. Inattendu, c'est un mouvement de grève. Alors qu'en période de crise, de chômage, les grèves sont difficiles, et des grèves massives, là on a le plus grand mouvement de l'Europe, de l'entre-deux-guerres, c'est comme aux États-Unis d'ailleurs au même moment, des grandes grèves, et des grèves ouvrières, et en même temps un phénomène d'union, et la jeunesse, pour la première fois, apparaît comme un enjeu central entre les fascistes et la gauche, et à l'intérieur de la gauche, entre les différentes forces. Alors, les menaces sur la République, le rassemblement électoral, la République est menacée, alors que la République bourgeoise apparaissait si forte, il y a des mouvements d'extrême droite, il y a des scandales, qui utilisent ces scandales et la corruption pour décider, considérer qu'il faut mettre les députés à la scène et virer la Chambre des députés. Émeute, 6 février 34, là c'est à la place de la Concorde à Paris. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le Front populaire, en fait, il commence par une riposte unitaire, qui est plus ou moins bien maîtrisé, dans lequel les communistes jouent un rôle d'initiateur, ils appellent à la manifestation dès le 9 février, mais le 12 février, c'est une grève générale, la première grève générale politique en France. Première grève générale. Contre, alors c'est pas une grève générale sur des mots d'ordre revendicatifs, c'est sur des mots d'ordre politique, c'est-à-dire contre les ligues factieuses, pour la défense de la démocratie, des libertés ouvrières. Et là, se retrouve avec les comités antifascistes, ça va nous ramener au problème des structures, il y a des comités déjà de vigilance, des comités antifascistes qui se sont créés et qui appellent ensemble à ces manifestations. Les communistes sont d'un côté, les socialistes de l'autre, là il y a plusieurs syndicats, j'entre pas dans l'histoire des syndicats, ils sont séparés, mais ils appellent à manifester au même endroit, et ils appellent à faire grève au même moment. Et donc dans la pratique, les choses vont se mettre en branle ce jour-là, la rencontre, mais il faudra plusieurs mois pour qu'on débouche sur l'unité d'action. Je vous la fais courte parce qu'autrement je tiendrai pas mes délais. L'unité d'action, c'est la première fois en Europe depuis la révolution russe et la fin de la guerre, que entre des communistes et des socialistes il y a une unité d'action avec un pacte d'unité d'action. Là j'ai mis un gars qui est dans une prison en Allemagne, c'est Dimitrov, qui est un dirigeant communiste bulgare, qui est Göring et Goebbels et Hitler, l'accuse d'avoir voulu brûler le Reichstag, d'avoir voulu faire la révolution en Allemagne, ça a été leur prétexte pour interdire le parti communiste et mener la campagne. Et donc il y a toute une campagne de solidarité avec Dimitrov. Et en France, les différents courants de la gauche socialiste, il y a une gauche socialiste assez puissante, entre un tiers et la moitié des à Paris, dans la région parisienne, qui est plus forte et qui va être pousser les dirigeants socialistes à l'unité d'action avec les communistes. Quant aux communistes, eux, ils changent d'orientation, puisque jusque-là, ils avaient, surtout les communistes français qui avaient déjà pris des contacts, qui s'étaient fait taper sur les doigts par la direction de l'International communiste, qui leur avait dit pas de contact avec la social-démocratie pourrie, et on employait d'autres termes à ce moment-là, moins doux, c'est on les taxait de social-fasciste, carrément. Donc, vous voyez, le virage est pas à 180 degrés, mais à 260 degrés. C'est un virage qui aboutit à l'unité d'action. Il y a une partie des militants qui ils sont surpris, d'autres, en dehors des militants, qui attendaient que ça. Parce qu'en fait, une grande partie des sympathisants, des lecteurs de journaux, de l'UMA, des syndicalistes, vont d'autant plus suivre que le Parti communiste, alors là, c'est vraiment le Parti communiste français. Maurice Thorez, le secrétaire général de l'époque, un dirigeant du journal L'Humanité qui s'appelait Marcel Cachin, qui est un ancien socialiste, fondateur du Parti communiste, vont lancer le mot d'ordre de Front populaire. On y arrive, parce que c'est ça le décor. C'est à l'automne 34 qu'est lancé le mot d'ordre de Front populaire. Si j'ose dire, les socialistes sont pris alors sur leur droite, et les radicaux n'en parlons pas, ils s'attendaient à tout sauf à ça, que les communistes propose une unité d'action socialiste, d'accord, mais là qu'il propose un front populaire qui aille bien au-delà, sur des mots d'ordre nouveaux, à la fois, le mot d'ordre c'est le pain, l'appel à la liberté, mais aussi la défense de la nation, l'idée que la République doit être sociale et qu'il faut développer la démocratie. Démocratie, alors que la démocratie bourgeoise avait été dénoncée, là, les communistes vont dire la démocratie, c'est une conquête de la Révolution française, il faut reprendre en quelque sorte là où elle s'est arrêtée, reprendre le thème des communards, l'idée qu'il faut une république sociale, une démocratie sociale. Et là encore, l'histoire joue un rôle à cette époque, pas les meetings, mais les défilés pour célébrer, commémorer ou le 14 juillet ou la Commune de Paris sont des moments tout à fait essentiels, de même qu'aujourd'hui, quand on fait référence au Front populaire ou à la Libération ou au CNR. Hein, vous voyez, c'est ce rapport au passé qui est assez intéressant. Bon, il y a le contexte international, je vous la fais alors là extrêmement courte. Il y a l'Éthiopie qui est envahie par l'Italie, les offensives entre les nazis et les Italiens qui se rapprochent, et le gouvernement français qui va signer un pacte d'assistance mutuelle avec l'Union soviétique. Et pour nous, ce qui nous intéresse, pour le deuxième point du décor, c'est le 35, là je vous ai mis 1935, le serment de Buffalo, parce que c'est exactement ça. Hein. C'est, on reprend le 14 juillet, là, dans toute la France, ah, c'est vraiment une initiative des communistes qui ont proposé de créer le Rassemblement populaire, parce que le terme Front populaire faisait peur. Aux socialistes et aux radicaux, ils disaient oui, Front populaire, c'est Front unique. Donc, on dit, les communistes ont dit, bon, Rassemblement populaire. Toujours est-il que c'est le 14 juillet 35, l'idée c'est de ne pas laisser à l'extrême droite. En réalité, à l'extrême droite, la rue, le drapeau tricolore, on va associer drapeau tricolore et drapeau rouge, et faire un serment, vous voyez le serment, il est plus ou moins clair, nous faisons serment de rester unis pour désarmer, dissoudre les ligues factieuses, défendre et développer les libertés démocratiques, etc. Et il y a un serment de la jeunesse, les organisations de jeunes prêtent serment le même jour, c'est Léo Figuère qui prête le serment au nom du Front populaire de la jeunesse. Et dans ce Front populaire de la jeunesse, il y a les jeunesses socialistes, il y a les jeunesses radicales, il y a différentes organisations de jeunesse, la jeune qui n'est pas dedans, mais il y a des organisations de jeunes chrétiens qui sont associées, et la jeunesse communiste va, on va en parler tout de suite après, prendre plus que le train en marche, elle va être en quelque sorte très à l'initiative dans ce domaine. Bon, je termine le décor. Un an plus tard, en 36, en avril mai 36, c'est la victoire électorale de l'Alliance. Il y a un programme commun, pour la première fois, un programme commun entre les c'est pas la première fois tout à fait, mais un programme commun entre tous les partis du Front populaire, plus les syndicats, et disons que la gauche avait gagné la fois précédente, et il y avait beaucoup de déceptions. Ça arrive, hein, quand la gauche fait des promesses, c'est les socialistes radicaux, et qui n'y tiennent pas, la droite progresse, l'extrême droite progresse, c'est ce qui se passait. Je vous parle de 1934-35. Mais là, effectivement, il y a des sortes de mécanismes qu'on retrouve. Et ce qui a fait échapper à ce qui se profilait, parce que l'extrême droite montait, la droite la plus qui réclamait un pouvoir fort, qui réclamait des mesures contre les étrangers, hein, loi xénophobe, 1935 en même temps, Laval prend les lois qui, vous imaginez, enfin si vous imaginez peut-être, mais ce qu'est le vocabulaire raciste et xénophobe à cette époque, les étrangers nous prennent le travail. Bon, ça c'est... mais on va faire des quotas par profession pour interdire le travail à ceux qui ne sont pas français. Par exemple, aux Italiens. C'était les Italiens qui étaient dans la ligne de mire, les Belges et les Espagnols, mais surtout les Italiens et les Polonais. Les Polonais, ils étaient bien encadrés par des curés, ils travaillaient, ils étaient soumis, ils n'étaient pas belliqueux, pas syndiqués, etc. Mais les Italiens, ils avaient déjà été largement syndiqués avec les Français, et là, il y a... Et alors, pour tout le bâtiment, on fait un... Et alors, évidemment, c'est inapplicable, parce que c'est les Italiens qui étaient les meilleurs, d'une part, dans ce domaine, et puis c'est eux qui connaissaient le boulot, qui faisaient le boulot, les chantiers, etc. Donc ça fout, là, vraiment. Non seulement c'est inapplicable, c'est xénophobe, mais c'est pour dire, hein, il y a quand même plus d'un demi-million d'ouvriers étrangers qui sont reconduits à la frontière. Un demi-million, c'est pas 20 000 ou 30 000. Hein. En deux ans, c'est énorme, une pression. Et une partie du syndicalisme se taisait pour être dans l'euphémisme. Alors oui, ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, on a la réunification syndicale. Et oui, ça arrive, mais c'est pas tous les jours. Réunification syndicale, je vous passe le détail, les différentes CGT, mais il y avait le syndicalisme chrétien qui restait à part. Hein. Le syndicalisme chrétien, bon... Il faut jamais oublier ce que c'est le syndicalisme chrétien, non, parce qu'aujourd'hui, vous avez sans doute affaire au syndicalisme chrétien à travers la CFDT, qui est vraiment l'héritière du syndicalisme chrétien. Bon,
si je me permets juste un tout petit truc pour que vous suiviez bien, hein, pour vous rappeler, hein, syndicalisme CGT 1895, congrès de Limoges, un seul grand syndicat, il y a les bourses du travail, tout ce qu'on voudra, et puis vous avez, au lendemain de la Première Guerre mondiale, deux scissions, deux nouveaux... Disons que ça s'éparpille, parce qu'il y a CGT, CGTU, vous avez deux CGT, une plus proche des communistes, une plus proche des socialistes, et puis vous avez le syndicalisme chrétien, la CFTC,
voilà, qui est à ce moment-là assez puissant, qui est proche de l'Église, évidemment, qui est piloté par l'Église, qui est souvent formé de syndicats jaunes, et puis qui, à un moment donné, va basculer, après le Front populaire, dans la résistance, dans une partie de combats les laïcs chrétiens vont rejoindre une partie des combats du monde ouvrier, mais avec quand même cette idée qu'il faut que l'Église reprenne la main sur le monde ouvrier et les salariés, et ils ont encore cette idée, et encore en 68, et encore aujourd'hui quand même. Je me permets de le dire au passage, et alors surtout le nouveau. Là, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et alors donc, en tout cas, excusez-moi pour la parenthèse, entre en mai 36, apparaît un phénomène qui est intéressant en temps de crise. En temps de crise, les ouvriers, quand ils font la grève, en général, c'est vraiment parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement pour défendre soit leur emploi, même encore aujourd'hui. Hein, c'est pas des grandes vagues grévistes. Et il n'y a pas eu de vague gréviste jusqu'aux élections. C'est après les élections que le mouvement gréviste se développe, et un mouvement gréviste parce que les ouvriers ont peur de perdre leur boulot, d'abord. Et en même temps, ils veulent faire appliquer le programme commun. C'est-à-dire la réduction de la durée du travail, des conventions collectives, etc. Et pour la première fois, ils occupent les usines. En un mois, pour aller vite, c'est parti de Nantes, c'est parti de Toulouse, la région parisienne, c'est pas qu'aux Parisiens. Il y a 2,5 millions de grévistes qui occupent leur... Alors là, la panique patronale est totale. La victoire électorale avait été
en faveur du Parti communiste, mais c'était le Parti socialiste qui était devenu le premier parti de gauche, et pendant un mois, le Parti socialiste avait préparé le changement de gouvernement, formé le nouveau gouvernement. C'est pendant ce temps-là que les grèves se développent. Et là, le mouvement gréviste va changer la physionomie du Front populaire, si vous voulez. Le Front populaire, ça a été d'abord une alliance, une unité, un programme, une victoire électorale, mais le mouvement social va en quelque sorte précipiter les choses, pour aller vite. Et dans la foulée, dans les deux mois qui suivent, il y a toutes les grandes lois sociales, des congés payés, les 40 heures, les délégués du personnel, l'ensemble de toute une l'augmentation d'à peu près 40% des salaires, l'office du blé, une série de grandes lois sociales, les conventions collectives, je vous fais pas le détail parce que j'ai pas le temps. Mais voilà. Et dans ce cadre-là, je vais m'arrêter là pour le contexte, dans ce contexte-là, la jeunesse va évidemment, et les organisations de jeunes vont se trouver complètement impliquées. L'expérience gouvernementale, les réformes sociales, bon, bah, c'est les 40 heures, les mesures dont je viens de vous parler, mais en même temps, des difficultés, des mesures économiques très timides, pas de nationalisation, pas de contrôle d'échange. Donc très vite, la nouvelle politique sociale est sabotée par qui ? Tiens, au fait, par qui ? Par les milieux bancaires et industriels. C'est la première fois que, enfin presque la première fois que les capitaux partent. Alors ils partent sous forme de lingots d'or, et à ce moment-là, c'est pas Internet, mais vous savez que c'est à ce moment-là que les Suisses mettent en place le secret bancaire. Vous avez entendu parler du secret bancaire ? C'est 36, c'est l'été 36. Donc, venez, petits capitaux français, vous pouvez être accueillis, personne ne saura rien et on ne pourra pas vous retrouver. Et c'est vraiment tout à fait important de savoir que le secret bancaire dont on se plaint tellement, c'est pas moral, etc., c'était extrêmement politique et dans la morale du capitalisme de l'époque, de mettre en place en Suisse un système qui permettait aux capitaux non seulement de s'abriter, mais de fuir la nouvelle fiscalité, la politique économique et de saboter le dispositif. J'ai fini sur mon décor, parce qu'il faut savoir s'arrêter sur le décor, et en arriver à la JC et à la question des jeunes, là-dedans. D'abord, la JC, le mouvement des jeunes, l'organisation de la jeunesse communiste, vous avez eu déjà lu des histoires de la jeunesse communiste, ou entendu parler de ça. Vous savez qu'elle est créée après le Parti communiste, la jeunesse communiste en France, elle est créée en 1921.
Ah oui, c'est sûr, si tu prends comme ça.
Non, parce que... Mais attends, tu vas voir, tu connais pas la suite de ce que je vais dire. Mais cette jeunesse communiste va fonctionner, parce que je suis obligé de faire très vite, pendant 10 ans comme un petit parti, ou le parti des jeunes, qui doit régénérer le parti. C'est-à-dire que la jeunesse communiste fonctionne pas tout à fait, là on pourrait rentrer dans des détails ou des discussions, pas exactement comme Lénine lui l'avait pensé, mais plutôt comme un parti qui va être le vivier des nouveaux dirigeants bolchevisés. Parce que le Parti communiste en France est quand même un parti relativement de masse, même s'il y a beaucoup d'anciens cadres socialistes, et les dirigeants de l'international pensent qu'il faut prendre des jeunes. Même un gars comme Torres, il a été un peu socialiste, Pierre Sébard n'en parlons pas, ou Mousseau n'en parlons pas, enfin bon, ils ont été socialistes et ils ont gardé quelque chose de leur... Donc il faut prendre les jeunes, tout jeunes, et avec les jeunes on va former des cadres bolcheviques. Donc dans les années 20, pour aller vite, dans les années 20, la jeunesse communiste va avoir son organisation calquée sur celle du parti, des cellules. Une spécialisation dans le travail, essentiellement le travail antimilitariste, le travail dans l'armée, un travail d'un type particulier, noyauter l'armée, travailler avec les appelés, pour le cas où il faut appeler les soldats à désobéir, être capable de les appeler, donc il ne faut pas déserter, il faut être présent, mais ça, un travail extrêmement dur, tout à fait non seulement honorable, mais extrêmement difficile. La jeunesse communiste va fournir des cadres du parti communiste renouvelé, et quand il s'agit de mettre des dirigeants sur le côté parce qu'on pense qu'ils sont pas assez
c'est dur, hein, y compris des grandes figures, mais on les embaume ou on les met de côté, on leur donne un siège, ou on leur, on, bon, Marcel Cachin, il est directeur de l'Humanité, il est en prison, mais il n'écrit plus ses textes, hein, on les signe pour lui, et ainsi de suite. Et donc, la nouvelle direction du Parti communiste, à partir de 1928, elle est constituée des anciens dirigeants de la JC. Et d'ailleurs, quelque temps plus tard, ça aura des effets légèrement négatifs, parce que ces JC, ils ont 25 ans, hein, à la direction du parti, 25, 28 ans, ils n'ont pas d'expérience municipale, ils n'ont pas d'expérience d'élu, ils n'ont pas d'expérience syndicale, ils ont une expérience de d'action, presque, on pourrait dire, d'action directe, hein. Vous voyez, d'action dans sur le terrain, un peu d'action syndicale, mais surtout le travail antimilitariste. Et ça donne des résultats. Ils ont tendance à considérer que la situation est tout le temps révolutionnaire, quoi, même quand elle n'est pas. Alors, si la situation n'est pas révolutionnaire et que ça ne marche pas, ben, c'est la faute à qui? Ben, c'est la faute à tous les droitiers dans le parti qui pourrissent. Il faut faire la révolution dans le parti. Ce qui est plus facile de faire la révolution dans le parti que dans le pays, quoi. Et il faut virer. Non, mais je caricature pour, parce que je joue à la montre, mais c'est un peu ça quand même. Hein. Il faut, alors c'est feu contre les opportunistes, contre les droitiers, et pour être droitier, il ne faut pas faire grand-chose. Hein. Il faut émettre, non pas des doutes, mais il faut dire les grèves ne peuvent pas être tout le temps politiques, elles peuvent être... Il faut, pour faire une grève, il faut avoir... Il faut quand même consulter les ouvriers, on ne peut pas proclamer... parce qu'à partir de 29, notamment, on proclame des grands jours de grève contre le capitalisme, contre la guerre. Vous voyez, et ça, c'est des mots d'ordre internationaux. Et quand, à la base, ça marche plus ou moins bien, quoi. Et comme ça marche pas bien, ben, il faut trouver les gars pour saboter, quoi. Et on les vire. Le Parti communiste, qui était à peu près, au moment de la scission, il avait fait 60 000 adhérents, il va tomber à 25 000 adhérents. Hein. La JC, qui était remontée ou montée à peu près à 15 000, 20 000 adhérents, elle va se retrouver à moins de 4 000 adhérents. Vous voyez. Alors, comme disait, on citait toujours à cette époque des phrases de Lénine ou attribuées à Lénine, moins mais mieux. Vous voyez. On est moins nombreux, mais on est meilleur. Mais à force d'être meilleur, mais très peu nombreux, ça posait quand même des problèmes. Donc, la direction du Parti communiste issue de la JC connaît une crise. Je vous la fais aussi assez courte, mais quand même importante. Comme à l'époque, on ne peut pas mettre en cause l'international communiste, il faut trouver des responsables. Et bien, les jeunes qui avaient été portés au maximum de la célébrité, les jeunes formidables, on les met en cause, on dit c'est le groupe des jeunes. Et en 1931, on dénonce le sectarisme du groupe des jeunes, Barbé, Célor, alors Billou, Guillaume, il y en a certains qui vont s'en sortir d'une part, parce que c'est pas qu'ils dénoncent leurs petits camarades, mais surtout ils disent on a eu tort, l'international a raison, etc. Et Raymond Guyot deviendra dirigeant du parti après cet épisode douloureux, François Billou aussi et d'autres. À partir de 1932, jusqu'à 1934, La JC va s'orienter vers un travail politique qui est l'antifascisme. C'est déjà très différent. L'antifascisme, mais toujours la conception d'un mouvement quand même calqué sur le parti. Il y a un nouveau dirigeant du parti, il y a Jeannette Vermersch, qui après est promise à un destin national et marital important. Jeannette Vermersch, qui est une ouvrière syndiquée et politique du Nord, du textile, va être dans cette nouvelle direction avec quelqu'un qui s'appelle Charrière. Georges Charrière, qui incarne un premier changement de la JC. Rapprochement avec les jeunesses socialistes, avec les différents courants, ils engagent des discussions au début de l'année 33 avec les jeunesses catholiques, les jeunesses socialistes et même des groupes qui sont infiltrés dans la jeunesse socialiste mais qui sont différents et qui sont les trotskistes. Alors là, pour lui, ça sera irrémédiable. Après, quand on va lui faire son bilan, si j'ose dire, d'activité, il ne s'en lèvera pas facilement. Mais en fait, derrière ça, Charrière a amorcé une première tentative de faire évoluer la jeunesse
la jeunesse communiste en ouvrant vers l'antifascisme mais aussi vers les loisirs, vers les problèmes qui préoccupent les jeunes au sens large. Et en 33, mais ça c'est parallèle à Thorez, hein, la direction du Parti communiste a fait la même chose. Sauf qu'avec la JC, ça va être plus violent, il va être vraiment viré. Et à la fin de l'année 33, il y a le congrès de la jeunesse communiste, congrès d'Ivry, qui redit il faut refaire des cellules, il faut reprendre l'action de la JC à la base. Donc vous voyez, hésitation et finalement stagnation. Hésitation, stagnation, problème de direction. Et d'un seul coup, c'est dans l'été 34, pour aller vite, là, l'orientation nouvelle est prise et Raymond Guyot va la personnaliser et il va l'expliquer et la défendre au niveau de l'international. C'est quoi la nouvelle orientation? Ben, vous allez dire, ça va peut-être vous surprendre, c'est qu'avec le Front Populaire, la JC va se donner comme objectif de réunir, d'unir la jeunesse. Elle va parler de la jeunesse. C'était interdit de parler de la jeunesse. On parlait des jeunes ouvriers ou des jeunes paysans, mais la jeunesse, c'était un concept bourgeois. Et c'est vrai que ça peut être un concept bourgeois si vous parlez de la génération sans voir la dimension sociale. Paul Vaillant-Couturier lance dans l'UMA une grande enquête sur le malheur d'être jeune en 1935, et c'est une manière de décrire tous les jeunes qui sont touchés par la crise, par le fait qu'ils n'ont pas d'emploi, l'absence d'instruction, la délinquance, la prostitution. Enfin, il fait un tableau terrible, mais qui montre que c'est pas seulement les jeunes ouvriers des grandes usines qui ont des problèmes, mais c'est que la jeunesse agricole, la jeunesse, et donc c'est l'idée du peuple que la jeunesse forme dans son immense majorité, comme le peuple de France, une population qui souffre. Ben oui, mais ça, cette démarche, c'est tout à fait inédit. Hein. Et il y a l'idée derrière qu'il faut développer un pacte d'unité de la nouvelle génération, de la jeunesse. Alors là, quand les dirigeants de la jeunesse communiste vont, il y avait une internationale communiste des jeunes, je ne vous en ai pas parlé, excusez-moi, qui était dirigée par des différents dirigeants, Koussinen, Chemodanov, Ujovitch, enfin des dirigeants tout à fait, comment dire, chevronnés, sinon émérites, mais qui connaissaient pour la situation française, pour eux la France c'était un pays de petits bourgeois et d'ouvriers complètement, qui avaient oublié les luttes, quoi. Et les communistes c'était les opportunistes, ils votaient tous les 4 ans, et puis c'est à peu près tout quoi, ce qu'ils faisaient. Et là, quand Raymond Guyot arrive à Moscou, là j'ai pas le temps de vous montrer les archives, mais on les a les archives, il explique ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que désormais la JC s'adresse à tous les jeunes, qu'elle va soutenir les actions revendicatives, mais aussi les problèmes quotidiens de l'éducation, du loisir, de la vie concrète des jeunes. Il se fait traiter, Raymond Guyot, bah, comme il avait fait lui-même à son... Il commence à connaître, non pas sa douleur, mais il encaisse, mais là, il est fort. Et il dit, vous n'avez pas compris, c'est pour nous le moyen de toucher, y compris les jeunes ouvriers, de toucher les jeunes catholiques, de toucher les jeunes socialistes, et de parler un langage en quelque sorte compréhensible. Et donc, il va falloir attendre plusieurs mois, mais au printemps 1935, se crée à ce moment-là un front populaire de la jeunesse à l'initiative des communistes qui vont voir les autres organisations de jeunes. Et vous voyez, c'est alors à l'intérieur de la JC, c'est vraiment une révolution. Hein. Il y en a qui traînent les pieds. Hein, il y en a qui traînent les pieds. Mais comme ils étaient 3000 là-dedans, il y en avait quelques cadres qui traînaient les pieds. Et que très vite, les adhésions arrivent par milliers. Que l'avant-garde va vendre des dizaines de... Le journal va complètement changer. Hein. Le journal va complètement changer. Ils vont parler du sport, ils vont parler du cinéma. On parle de la radio. Alors il y avait des dirigeants du parti communiste qui n'aimaient pas ça. Hein. Marty était le personnage tutélaire à NJC. Hein. Il était toujours un peu... Mais bon, ils font avec quand même. Hein. Voilà. Donc... Ça, c'est le problème général de nouvelle orientation de la JC. Je ne développe pas. Vous m'avez posé une question
que tu m'as relayé, parce que je n'avais pas compris, ma question ne m'avait pas été posée, tu es dans un titre, bon, alors il fallait que je comprenne, je n'avais pas compris. Mais c'est la question des comités, des modes d'action et d'alliance, comment ça pouvait fonctionner. Alors, il y a plusieurs manières, plusieurs transformations. D'abord, les cellules de JC disparaissent. Elles disparaissent. On fait des foyers, des cercles, enfin des formules que vous connaissez parce qu'elles sont restées après. Mais la cellule de JC a disparu au profit de formes qui vont être reprises plus tard. Toi, dans ton travail de recherche, parce qu'il ne vous a pas dit qu'il a fait un très gros travail de recherche sur la JC après, qui a donné lieu à un livre. Si vous voulez comprendre la JC après la guerre, il faut lire son bouquin sur et comment à ce moment-là on a créé les jeunesses républicaines et voilà, qui ont duré un temps. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça. Moi, je croyais que c'était lié. Non, mais c'est vraiment très intéressant. Mais il faut. C'est très intéressant pour vous. Il faut connaître ça. Mais l'histoire commence vraiment en 36, hein, effectivement. Nouveau sigle, nouvelle conception des groupes. Alors, il y a des groupes, il y a des foyers, il y a des cercles. C'est très variable parce que. En même temps, on crée des organisations parallèles à la JC. Les jeunes filles de France. Les jeunesses agricoles, les étudiants communistes, là encore je ne peux pas rentrer dans les détails, les organisations après de lycéens, mais là c'est plus flou, c'est plus compliqué. Mais donc on a finalement des adaptations en réalité, et l'idée de créer des structures beaucoup plus ouvertes et qui ne rebutent pas les jeunes au départ. Après, on y discute politique, mais on commence par y discuter de tous les problèmes généraux de la jeunesse. Alors ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, à propos des formes d'organisation, c'est le lien avec les comités. Qu'est-ce que c'est les comités? Les comités, machin, truc, etc. Les comités en France, ça n'a pas commencé au Front Populaire. Ça a commencé, pour une part, au moment des mobilisations... extra-parlementaire dans les mouvements politiques de masse autour de l'affaire Dreyfus contre l'extrême droite. Ça a commencé pas forcément dans le mouvement syndical et dans le Parti Socialiste, mais ça, après ça a créé des il y a eu des phénomènes de comités, mais c'est surtout après la Première Guerre mondiale que se sont mobilisés des comités autour de causes. La défense, par exemple, de ceux qui étaient menacés par la peine de mort aux États-Unis, Sacco et Vanzetti, les comités pour la défense de Sacco et Vanzetti. Vous savez, vous avez entendu parler de Sacco et Vanzetti. Hein? Sacco et Vanzetti sont condamnés à mort en 1920, mais ils sont exécutés en 1927. Hein? C'est la méthode américaine du règne de la justice pour tous, surtout ceux qui sont dans les milieux populaires. À ce moment-là, c'était les Italiens, après beaucoup les Noirs. Les Noirs, ils n'étaient pas condamnés à ce moment-là parce qu'ils étaient lynchés. Et le progrès, plus tard, ça va être les condamnations à mort, mais sans lynchage. Toujours est-il qu'il y a les comités contre la terreur dans les Balkans, etc. Et à partir de 1930, c'est les comités antifascistes, contre le fascisme et la guerre. Et donc vont se développer des comités contre la guerre et le fascisme. Et dans ces comités, on trouve des groupes et des partis, des militants de tous les côtés. Et là, s'engage un débat avec les socialistes, avec les communistes, autour de la question... Faut-il créer des comités de Front Populaire? Vous voyez, j'y arrive. Comité de base du Front Populaire. Est-ce qu'on peut adhérer au Front Populaire? Ah, vous dites pour tout ça pour en arriver là, à propos du Front de Gauche et de l'adhésion au Front de Gauche. Ben voilà. En 1936, le débat porte sur à la fois deux choses. Mais vous voyez, je pense que comme je veux tenir les délais, ça sera... pas les derniers mots, mais les derniers mots de mon topo, et après on discutera. C'est qu'à cette époque, les socialistes, tant que les communistes étaient faibles, disaient « Nous voulons bien faire l'unité avec vous, mais il faut rejoindre les socialistes. » Bon. Les communistes disaient « Non, nous on a notre identité, on ne peut pas vous rejoindre. »
ou alors vous rejoignez le programme de l'International communiste, vous dites le bien que vous pensez de Staline, etc. C'est pas possible, ça. Et pour les jeunesses radicales, bon, on était au-delà. Donc, là, il y a deux questions à ce moment-là qui se posent, c'est l'unité organique et l'adhésion au Front populaire. Hein, d'accord ? Les communistes et les socialistes n'ont pas abandonné l'idée de l'unité organique, de la réunification. De même que la réunification se fait pour la CGT, on parle de la réunification socialiste-communiste. Et donc, les communistes disent, bah, justement, puisque la réunification n'est pas pour demain, en attendant, on pourrait faire l'adhésion au Front populaire. Et les communistes ont poussé pour qu'il y ait des comités de base les citoyens qui, même qui ne sont pas membres d'un parti, pourraient adhérer au comité de Front populaire. Et la situation n'est pas tranchée, elle est reportée jusqu'aux élections de 36 et au mouvement de grève. Et là, en quelque sorte, la question va être non pas reportée, mais abandonnée. Pourquoi elle va être abandonnée? Parce que les organisations politiques respectives se renforcent de façon considérable. C'est-à-dire que les citoyens vont aller vers les partis, vers les syndicats. Les comités s'affaiblissent à partir de la victoire électorale et syndicale. Pour vous donner un exemple, quand même, vous ayez un exemple, les syndicats, la CGT passe de 600 000 adhérents à 4,5 millions d'adhérents. Vous voyez, ce n'est pas augmentation de 5%, de 10%. Vous voyez. On est dans des chiffres de multiplication énormes. Le Parti communiste, il passe de 40 000 adhérents, à, comme je vous l'ai dit, à 300 000 adhérents. L'AJC, de 4 000 à 100 000 adhérents. Alors, dans les organisations, l'idée, bah, c'est qu'on est assez... Et les socialistes, ils augmentent, mais beaucoup moins. Donc, à la limite, la question n'a plus la même intensité actualité, d'autant que les socialistes ne veulent pas, et les radicaux encore moins. Et surtout, il y a une raison supplémentaire, c'est que il y a la question de la non-participation des communistes au gouvernement. À partir de l'été 36, alors vous savez que j'explique pas pourquoi. Mais le fait que les communistes ne sont plus au gouvernement, Paul Vaillant-Couturier ne sont pas au gouvernement, alors que c'est eux qui ont fait tout le boulot, c'est eux qui ont dirigé le mouvement, c'est eux qui ont doublé leur voix aux élections, et ils ne vont pas au gouvernement. Pour ne pas être prisonniers du gouvernement. Comme dit Paul Vaillant-Couturier, qui a le sens de la formule, même si du point de vue de la stratégie, c'est pas toujours celui qui voit le plus loin, il dit, nous n'avons pas les ministères, les portefeuilles, mais nous avons le ministère des masses. Oui, d'accord, nous avons le ministère des masses. Mais le ministère des masses, quand il y a la guerre d'Espagne, quand il y a à prendre des décisions économiques, politiques, majeures, qu'il y a à négocier avec... C'est embêtant qu'il n'y ait pas de communistes au gouvernement. Après, d'ailleurs, les dirigeants communistes s'en aperçoivent. Ils obtiennent le feu vert de l'International communiste, ils demandent, ils disent un an plus tard, on voudrait bien entrer au gouvernement, il y a manifestation, pétition, mais vous savez, comme on dit souvent, l'histoire ne repasse pas les plats, et quand une occasion est manquée, il faudra la saisir dans un autre contexte, elle sera saisie pendant la guerre, à la libération, etc. Mais à partir de ce moment-là, la question ne se pose plus vraiment. Mais est-ce que c'est une bonne question? C'est une très bonne question. Parce que, évidemment, les comités s'étaient développés parce qu'il y avait une crise des partis politiques. Il y avait une crise des partis politiques face au fascisme, face à la crise économique, la gauche n'arrivait pas à mobiliser, etc. Le Front populaire a été le mot d'ordre que le Parti communiste a mis en œuvre et qui a en quelque sorte créé les conditions d'une remobilisation. L'influence communiste a été forte. Elle a été forte, elle n'a pas été hégémonique partout, mais elle a été forte dans la CGT. Ils étaient minoritaires, les communistes, mais les grèves, les mouvements sociaux leur ont donné une sorte d'influence majoritaire dans la CGT. Après, il n'y a plus d'élections jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à 1945. Alors, on ne peut pas savoir ce que ça aurait donné politiquement la traduction du Front populaire. Simplement, après l'expérience gouvernementale, les difficultés, les menaces de guerre et tout ça, ça retombe très vite. Il y a les grèves de 38 qui sont brisées, etc. Donc, aujourd'hui, pour faire ma conclusion, retomber sur mes pieds, que moi je ne peux pas être mécontent qu'on revisite l'histoire du Front populaire, et même qu'on se ressaisisse de la notion. Même si c'est arrivé dans un contexte, parce que moi j'ai connu un moment où on m'a dit le Front populaire, c'est la faute du Front populaire s'il y a le programme commun, ce que le Parti communiste a perdu, c'est la faute du programme commun, donc le Front populaire a été le début du retard. J'ai connu une époque où le raisonnement historique était relativement médiocre, ou schématique. J'ai dit, bon, si vous savez, il faut bien trouver un responsable. Maintenant, on ne vire plus les gens, mais on trouve des responsables dans l'histoire. Je pense que quand on a retrouvé l'idée, revisité l'idée du Front populaire il y a quelques années, à travers les problématiques de l'alliance des forces de gauche en France, on a, je pense, eu une idée forte, intéressante. Maintenant, l'idée de créer un front politique de différents partis, le front de gauche, pour ne pas le nommer, c'est quelque chose qui s'articule avec l'idée de front populaire, mais qui ne se confond pas, à mon avis, qui ne se confond pas. Et donc, la question de savoir qu'est-ce que c'est le front de gauche par rapport à une grande alliance sociale, politique, avec un programme, et comment on peut créer des organismes pour fédérer une partie de la population qui est très réticente face aux organisations politiques, y compris de gauche, vu leur bilan et vu certaines de leurs difficultés. Moi, je pense que c'est une question qui reste d'actualité. D'ailleurs, j'ai plus grande activité politique, je suis un vieil historien, on va dire. Mais j'ai eu un peu d'activité politique dans ma jeunesse, et d'autre part, actuellement, moi, je défends cette idée, en tout cas pour ce qui me concerne, de la possibilité d'avoir, dans les comités du Front de gauche, la possibilité d'accueillir d'une façon ouverte des gens qui ne sont adhérents à aucune organisation, ce qui ne veut pas dire que le bout du chemin c'est de faire une nouvelle organisation ou de faire en sorte qu'ils n'adhèrent nulle part, mais je pense que la porte d'entrée doit exister, et je pense que l'adhésion au Front de gauche devrait être dans des comités de Front de gauche, être d'actualité. Mais ça, c'est un peu à l'image de ce qui s'est passé dans ces années 30. On tourne autour de ça depuis des années, et je pense qu'il faudra bien en passer par là, c'est-à-dire avoir des sas, des portes d'entrée à l'activité dans le Front de gauche. Bon, voilà, j'avais dit que j'allais m'arrêter au quart, j'ai pris 5 minutes de trop.
Ça va. J'ai juste un tout petit mot, avant qu'on applaudisse comme il se doit Serge Belikov, juste pour dire que, là, vous l'aurez compris, non, je dis ça parce qu'à tout temps, tu poses des choses en conclusion, enfin, pour quand même que je... Bon, mais si tu veux, ce que je veux dire...
Mais ça, j'ai dit que c'était mon point de vue actuel. Voilà, mon point de vue actuel. Je l'ai dit, politiquement, j'ai signé tel ou tel texte,
c'est pour le décor.
Pour le décor, mais ça ne fait pas partie du sujet.
Non, mais c'est juste pour dire que voilà, c'était l'objectif, n'était pas d'arriver nécessairement à une conclusion qui serait celle-là. L'objectif était de nous nourrir intellectuellement, historiquement et politiquement d'une expérience donnée et de questions qui, pour se poser aujourd'hui, se sont posées hier dans un contexte différent, etc., etc. Et donc, c'est pour un petit peu nous amener plus haut dans nos réflexions et dans un sens ou dans l'autre. Et bien, je pense qu'on peut remercier Serge Belikov.
Ok, voilà. Petite question, alors. Grosse question. Est-ce que j'ai d'un fond de train, hein, vous voyez.
La première est la plus dure, mais après... Ça...
Oui, bah, passez directement à la deuxième.
Non, sinon, bon, allons-y, posons à ce moment-là directement une question. Ces comités de jeunesse du Front populaire, souvent ils se font avec une hostilité très vive des socialistes sur place qui ont peur d'être débordés,
hein, absolument,
c'est l'impression que ça donne. Et la question que je voulais poser, c'est est-ce que ça a un... une certaine forme de succès par endroit. Est-ce que ça compte dans l'abandon ou dans le non-abandon, ce genre de forme-là? Et puis, est-ce que finalement le fait de faire de la JC une organisation finalement qui est ouverte très 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 largement, puisque pour revenir sur la question de départ, une entrée sur le sport, il faut bien se rendre compte que la JC à ce moment-là, et une organisation dont on a pu parler aussi, c'est la FGT, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, qui a ce besoin de dire que maintenant, l'idée du mouvement communiste, c'est de partir des préoccupations de ceux auxquels il s'adresse. Et parmi ces préoccupations, il y a peut-être la révolution pour certains, mais il y a quand même aussi, est-ce qu'on peut jouer au ballon, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, etc. Et donc, la JC elle-même va se développer beaucoup à partir de choses qui sont très étonnantes. Par exemple, on crée des endroits où on peut jouer au billard, on crée des endroits où avec de la radio pour écouter, on fait des balles, mais à profusion, une profusion de balles, on fait des sorties en plein air. On ouvre des bibliothèques, on fait des tas de choses avec des outils très ludiques. Et alors la question c'est, est-ce que du coup il y a encore besoin de ce...
J'ai compris, il y a deux choses qu'il faut dire. C'est qu'il y a un vrai problème du rapport à la politique, la manière de faire la politique, qui est posée là. Tu retrouveras après-guerre, ça, maximum, toi. Mais il y a un autre phénomène qu'il faut que vous sachiez, c'est que, je l'ai dit, puis je l'ai annoncé, puis je ne l'ai pas traité, cette question, c'est que la jeunesse c'est une catégorie historique. La jeunesse en 1936, c'est pas la jeunesse aujourd'hui, notamment parce que la scolarisation et la jeunesse entretiennent un rapport étroit. Or, pour l'essentiel, à 95%, les jeunes arrêtent la formation, enfin 90%, la formation à 12 ans, et ils sont au boulot. Alors là, au moment du Front populaire, l'âge de fin d'études augmente. On va porter à 14 ans, mais le temps que ça porte ses fruits, ce serait après la guerre. En réalité, on commence à 12 ans à bosser. Et donc, la notion de loisir existe, va exister, mais la notion d'éducation prolongée, etc., n'existe absolument pas. Et donc, la JC, dans ses activités, elle va découvrir quelque chose qui est très fort à ce moment-là, c'est la soif de ces jeunes, des milieux populaires, d'avoir accès au sport, parce que l'idée de sport ouvrier, toute la législation du sport, toute l'organisation du sport, c'est bourgeois. Okay. Tout l'olympisme, la notion même de sport, on n'a pas le temps d'en parler, c'est les Anglais, la bourgeoisie anglaise, les lycées anglais, les universités, tous les canons du foot, toutes les règles, tout ça. Et donc l'appropriation par le monde ouvrier du sport, c'est en quelque sorte une revendication. Mais pendant longtemps, on a des clubs de sport ouvriers. La FSGT, la FST, c'est la première organisation d'unité socialiste communiste, c'est le sport, en 1934. Donc voilà. Et donc ça a un énorme succès. Ça a un énorme succès. Mais ça a un succès parce que, en quelque sorte, ça donne... C'est la JC qui prend en charge des revendications de ces jeunes des milieux populaires qui n'ont pas accès. C'est pour ça que je vous dis, faisons gaffe à ne pas transposer la situation 80 ans plus tard, avec les politiques publiques du sport, avec l'âge. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est quelle est la perspective de vie des ouvriers, L'espérance de vie moyenne d'un ouvrier de l'industrie, d'un ouvrier agricole, c'est entre 55 et 58 ans. L'espérance de vie moyenne. D'accord ? Donc, un jeune, il commence à 12 ans à bosser, il peut avoir une espérance de vie qui est jusqu'à 50 ans, 55 ans. La retraite n'existe pas. La retraite n'existe pas au moment du Front populaire. Donc il y a des assurances, etc. Et quand les gars prennent leur retraite, ils n'en profitent pas. À 60 ans, ils ont quelques mois d'espérance de vie. C'est le bon temps de la retraite, vous voyez, c'est ça. Et y compris après la guerre, c'était un grand débat sur l'âge de la retraite par rapport à l'espérance de vie du monde ouvrier. Mais en tout cas, Voilà, la JC, moi je pense que par analogie, il faut réfléchir à des choses comme ça. Mais ce qui a fait sa force, c'est sa capacité à répondre à ça en faisant quand même de la politique, mais d'une façon pas homéopathique, mais en accompagnant par la vie. Alors, dès 38, il y a des débats. Est-ce qu'on fait assez de politique ? Est-ce qu'on n'a pas une dépolitisation des jeunes ? Ouais, mais peut-être dépolitisation des jeunes par rapport aux 4000. On peut dire que sur les 100 000, il y en a peut-être 20 000 ou 30 000 qui ne font pas du tout de politique, mais c'est quand même toujours 10 fois plus d'adhérents à la JC qu'avant, quoi. Hein, donc, et sur le journal, c'est pareil, même débat. Alors, par contre, je pense que une partie des JC et des foyers étaient conçus eux-mêmes comme des organismes très larges. Et on ne demandait pas du tout un accord politique détaillé aux adhérents. C'était une forme culturelle d'adhésion. Hein. Voilà, il y avait une forme culturelle d'adhésion sociale, de classe, etc. On mettait des gens aussi populaires. Hein. Quand Daniel Casanova fonde les jeunes filles de France. Elle est déjà adulte, elle est dentiste, c'est une jeune femme qui a 30 ou 35 ans, et ça, c'est, on dit d'ailleurs que comme ça, les mères oseront envoyer leurs filles dans des organismes comme ça sera pas, quelle époque, hein. La mixité, c'est impossible. La conclusion, c'est s'il y a trop de mixité, on n'aura jamais les jeunes filles, quoi. Voilà, donc on peut dire que les débats politiques sur l'alliance ou l'adhésion, elle se fait autour de la politisation, hein, surtout. Et finalement, le choix qui est pris à ce moment-là, c'est une adhésion qui est une adhésion plus large, culturelle, quoi. Franchement, je crois que c'est ça. Mais ceux qui ont adhéré à la JC dans ces conditions-là, à 90% plus tard, ils vont au Parti communiste, hein. Mais ils y vont aussi dans un nouveau parti communiste, un parti communiste qui n'est plus un parti communiste de secte, de petits groupes, qui est beaucoup plus large, quoi. Alors, est-ce qu'ils sont combatifs ou est-ce qu'ils ne sont pas combatifs ? Ça, j'ai oublié d'en parler, hein, de ça. C'est que la combativité, ça fait partie un peu de ce qu'on pourrait appeler les gènes, on dirait aujourd'hui, de la JC, quoi, quand même. On se bat pour tout. On peut se battre pour des vacances, on peut se battre pour un stade, on peut se battre pour le sport, on peut se battre pour un bal, on peut se revendiquer tout. On fait rentrer dans les revendications simplement un domaine beaucoup plus large, hein, du champ de la revendication. Et c'est donc assez intéressant parce que je pense que c'est l'idée que collectivement, on peut s'approprier des questions qu'on avait laissées de côté. Je dirais aujourd'hui, il y a des analogies, mais c'est dans d'autres domaines, quoi, hein, je pense. De la politisation, mais c'est sûr que y a des discours, par exemple pourquoi il faut s'occuper de la radio, de la TSF comme on disait, ou du cinéma, quoi. Et vont se créer des associations jeunes avec la JC pour faire des films, hein. Ça coûte très très cher à faire des films, ou de la TSF, à ce qu'on appelait la TSF, transmission sans fil. Salut Marco. C'est pas une vraie réponse, mais...
J'ai déjà fait une question, je me laisse...
Oui, là, vous...
Oui, moi je voulais savoir, je disais que les jeunesses communistes étaient particulièrement combatives et particulièrement un peu en avance sur l'état général des cadres du Parti communiste de l'époque. Est-ce que l'histoire des rapports entre jeunesse du Front populaire et parti du Front populaire se superpose complètement, c'est-à-dire au moment des ententes, des désaccords, voilà.
Moi, ce que je peux dire de ce qu'on connaît, parce qu'on ne connaît pas, c'est assez compliqué, parce qu'il y a les mémoires des uns et des autres, et puis après il y a ce qu'on regarde, parce que il faut regarder les choses telles qu'elles se sont passées. Le Parti communiste, la JC, mouvement de masse, je vous ai dit la belle histoire, hein. Il y a une moins belle histoire, c'est 1939-40, interdiction de la jeunesse communiste, interdiction du parti communiste, des listes noires, répression, etc. Et on va arrêter les gens, on arrête la police à des listes avec ceux qui étaient adhérents au moment du Front Populaire, ils ne les ont pas mis à jour, hein. Mais quand il faut faire les politiques d'otages, quand il faut faire des arrestations préventives, on va demander aux gens de renier leurs idées. On les arrête, on les garde en prison, on les met en camp d'internement. S'ils ne renient pas leurs idées, on les fait pourrir là-dedans. Et après, les Allemands et les Français iront puiser les otages pour fusiller. Vous voyez, donc c'est dur, parce qu'il y a des gens qui ont voulu sauver leur peau, etc. Mais globalement, quand même, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que, presque sauf exception, tous ceux qui ont été dans l'adhésion au moment du Front Populaire, dans le mouvement de la JC ou du parti qui ont adhéré dans cette ambiance-là, ils se sont retrouvés dans la résistance. Sous des formes actives ou pas, mais ils ont pas renié le parti. Ils ont traîné les pieds au moment du pacte germano-soviétique parce qu'ils n'ont pas très bien compris, tous. Ils ont vu après que c'était très anticommuniste et qu'on tapait sur les communistes, donc ils se sont dit, bon, toujours la même chose. Mais quand même, hein, ils n'ont pas suivi, la plupart. Mais à partir du moment où le Parti communiste prend la tête de l'activité de la résistance dans le monde ouvrier, etc., il reprend le discours national, le discours patriotique, démocratique du Front Populaire, c'est le même combat. Donc on peut dire que ça n'a pas été une sorte de parenthèse. Le Front Populaire et l'engagement des militants. Et souvent, il suffit de prendre les adhésions, les adhérents, les gars qui arrivent aux responsabilités au moment du Front Populaire, dans la JC, dans le parti, on les retrouve dans la résistance. Souvent, ils se font... c'est ceux qui sont les plus vite liquidés par les nazis, les milliers de communistes qui ont été fusillés, qui ont été déportés, ben c'est souvent ceux qui sont connus, hein, plus que les inconnus, et les cadres, et ils sont déjà devenus des cadres. Dans ce sens-là, moi je réponds positivement. Alors, qui ait eu des désaccords dans le Front Populaire, dans la période du Front Populaire, dans l'adhésion? Il y a eu des troubles et des désaccords. Ça, il ne faut pas se cacher. Dans la JC, je ne sais pas. Il y a un épisode que je n'ai pas évoqué, mais il faut l'évoquer. C'est ce qui se passe en URSS. Les purges. Les procès, qu'on appelle aujourd'hui les procès staliniens, mais c'est les procès des comploteurs. Il y en a 36, 37, 38. Trois énormes procès. Avec tous les dirigeants, enfin tout. Une grande partie des dirigeants de la révolution russe. Qui sont dénoncés comme des hitléro-trotskistes. Oui. Et qui sont fusillés. Après avoir avoué qu'ils avaient voulu tuer ou Staline ou Lénine, etc. Qu'ils étaient. Bon. Donc là, il y a du trouble quand même. Il y a du trouble. Et en même temps, comme la tension internationale est forte, l'idée majoritaire. D'ailleurs, les communistes français se font taper sur les doigts en disant qu'ils ne mènent pas assez de campagne en France pour expliquer ces procès, etc. Ils sont convoqués, les dirigeants. Là, Paul Vaillant-Couturier lui-même est convoqué et il va faire un des derniers articles avant qu'il meure, c'est là-dessus. Parce qu'il avait fait plein de choses sur l'URSS et il était un peu muet sur il ne suffit pas de ne pas être contre, il faut soutenir. Alors là, ça crée quand même, chez les étudiants, une partie des gens qui n'étaient pas communistes dans le Front Populaire, ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Et pour les communistes, ils se posent des questions, mais sans dire ouvertement, quoi. Il y a du trouble. Je crois que c'est réel. C'est très difficile de mesurer les effets. Je pense que les effets, ça a été de freiner la combativité à un moment donné, au moment de Munich, à des choses comme ça. Quand on voit le maréchal en chef de l'armée rouge, Tukhachevski, qui est fusillé parce qu'on l'accuse d'avoir comploté avec les dirigeants de l'armée allemande, de l'armée nazie, hein. C'est un choc quand même, hein, y compris pour un communiste quand même. Surtout que Tukhachevski, c'était pas n'importe qui. De même Boukharine, hein, de même ses dirigeants historiques de la Révolution. Alors, je pense que ça a un effet limité, mais un effet réel sur les communistes. Ça crée du trouble, quoi. parce qu'il faut avaler ça et sans comprendre. C'est très difficile d'expliquer, quoi. Alors les analogies, il y a des historiens, il y a toujours des historiens qui sont prêts à fournir des explications. Ils ont dit, des bons historiens d'ailleurs, comme pendant la Révolution française, il y avait des généraux de la Révolution française qui ont trahi Dumouriez et d'autres. Hein. Bon, alors on dit Boukharine, c'était Tukhachevski, c'est comme Dumouriez, sauf que Dumouriez était corrompu et c'était des bourgeois et que Tukhachevski c'était un personnage extraordinaire et intègre, et qu'il a fallu que... On sait aujourd'hui, c'est la Gestapo et les services secrets allemands, pas la Gestapo et le Canariste, qui ont fourni les documents qui ont permis de dresser l'acte d'accusation contre Tukhachevski. Bon, enfin bon, c'est une autre histoire.
Pardon. Deux petites questions. La première, c'est l'activité de la JC au moment du Front Populaire. Est-ce qu'elle se concentre... seulement autour des activités qu'on pourrait dire entre guillemets éducation populaire, sport, etc. Ou est-ce que la JC participe politiquement aussi au Front Populaire? Ou alors c'est juste le Parti communiste? Et deuxième question, par la modification des pratiques et de l'activité militante de la JC à ce moment-là, avec cette massification, le sport, tout ça, est-ce que le comportement, c'est pas tout à fait le bon terme, mais est-ce que la direction, on va dire, du Parti communiste sur la JC va changer? Enfin, les relations entre le parti et la JC vont-ils changer ou pas?
Ouais. Je commence par le deuxième parce que ça va expliquer le premier. Ça, c'est une très bonne question parce que le contrôle était permanent de la direction sur la JC. Mais en même temps, la JC était un petit parti en lui-même qui était considéré comme une sorte de pépinière de vivier pour renouveler le parti si besoin. Donc c'était, on avait des cadres, de futurs cadres, et qui jouaient de futurs dirigeants du parti, en permanence. Donc les JC, ils étaient toujours en train de faire la leçon au parti, ça faisait partie de leur apprentissage, ils posaient leur candidature, mais sous une forme révolutionnaire, en disant plus révolutionnaire que les JC, ça n'existe pas, et c'est ça qu'il faudrait pour faire un bon parti. Et ça a marché pendant 10 ans, c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais en même temps, ils étaient très contrôlés, puisque la direction du parti avait... Il y avait un membre du bureau politique et du secrétariat qui suivait tous les débats et toutes les réunions de direction de la JC, et à tous les niveaux, il y avait un suivi politique. Et là, je vous parlais de Marty. Marty a été détaché justement à partir de 1929-30, après la sortie de prison, mais il était l'ami du groupe des jeunes dirigeants, et puis il était vieux par rapport aux autres, donc il avait l'autorité, mais en même temps, il était proche de la JC. Il a toujours été dans une sorte de, on va dire, de démagogie, quoi, à propos de la jeunesse. Les jeunes sont mieux, ils ont raison, etc. Mais c'était, en fait, c'était un suivi très précis. Donc, il y avait ce double phénomène. À partir de 1935, on a un phénomène différent. C'est-à-dire que les dirigeants JC deviennent des dirigeants du parti plus vite, et ils intègrent la direction du parti sans qu'il y ait de bouleversement. Donc, il y a une autre osmose. Et surtout... il y a, si vous voulez, les dirigeants de la JC sont des dirigeants politiques désormais, à part entière. Hein. L'exemple, c'est Victor Michaud, c'est Raymond Guyot qui deviennent des dirigeants à part entière. Mais en même temps, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe des questions de la jeunesse dans le parti, mais pas un suivi interne de même nature dans l'organisation. Alors la question se reposera périodiquement dans l'époque. Hein. Mais voilà, moi ce que je sais, c'est ça. Alors, est-ce que la JC, qu'est-ce qu'elle fait maintenant dans l'activité politique? Elle organise beaucoup de manifestations de masse. Les défilés, les grandes manifestations du parti ou du Front Populaire, il y a la JC toujours qui est là. La JC, elle est là. Le Front Populaire de la Jeunesse, c'est une formule de rassemblement, mais dans la réalité, c'est la JC qui se considère comme la grande organisation de Front Populaire de la jeunesse. Hein. Et elle est toujours là. Vous pouvez voir dans toutes les manifestations, les banderoles, les jeunesses communistes, des différentes sections. Alors c'est plus c'est le foyer machin, le groupe truc, etc. Et puis après, il y a des manifestations politiques, publiques, lors des réjouissances du 14 juillet, les balles. Ah ben, il y a les balles de la jeunesse communiste, des foyers partout. Ils n'ont pas été longs à apprendre. Hein. Et ils ont vraiment pris. Avant, c'était les jeunesses radicales qui faisaient ça. Alors, les jeunesses radicales, elles sont complètement balayées très vite. Hein. Voilà. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que l'idée de faire des jeunesses républicaines, après, va naître dans cette continuité. On a vraiment quelque chose qui... le Front Populaire, il faut absolument pas... Et la période du Front Populaire, il faut la prendre dans la durée, quoi. En fait, 1934-1947... à peu près. Hein. C'est cette période-là. Il y a des césures, mais qui sont pas profondes, quoi. La période de la drôle de guerre, de ce que j'évoquais tout à l'heure, la fin du Front Populaire, on va rebondir avec la problématique de la guerre et de la clandestinité, puis de la libération.
Je sais plus si on a encore un peu de temps. Encore
pas je crois trop, que non, parce que c'est moins le quart, quoi.
Hein ?
Non, pas trop.
Non, mais peut-être juste un petit point d'éclaircissement parce que peut-être que vous ne le saviez pas. Parce qu'on a parlé, Serge Velikoff a parlé d'André Marty, et alors comme il fait partie des effacés, je vous le resitue un peu rapidement parce que je pense que voilà. André Marty, c'était un dirigeant très important du Parti communiste français. Il a été jusqu'à numéro 3 du Parti communiste français, et il était surtout important parce que au moment de la révolution russe, si vous voulez, la bourgeoisie française, le gouvernement français et parmi les d'autres aussi, hein, ont décidé évidemment d'attaquer la révolution bolchevique. Et donc, il y a des soldats qui ont été envoyés pour combattre la révolution bolchevique. Et parmi ces soldats, il y a André Marty, qui est un marin, et qui dit « ben non ». Voilà. Et donc, il y a mutinerie, et donc il est à la tête des mutins de la mer Noire. Voilà. La mer Noire que vous situez hein, au nord de la Grèce, etc. Donc, personnage très important à ce moment-là, et qui va avoir un destin voilà, majeur.
Et puis après, il a été secrétaire de l'Internationale communiste, et il a été souvent à Moscou, mais il a représenté le Parti communiste en Algérie. Il a été souvent dans une rivalité réelle avec Maurice Thorez. Et surtout, du point de vue de la ligne politique, il était toujours assez réticent à l'égard du Front Populaire. Il faut bien le dire, c'est lui qui enterre le Front Populaire à Moscou en novembre 1939. Je vous ai parlé de la non-participation des communistes au gouvernement. Lui, il fait un rapport à Moscou sur le danger des dirigeants communistes français qui veulent aller au gouvernement. Hein. Donc on va les archives maintenant. Hein. Donc c'est très très clair. Mais comme dans cette histoire, toutes les choses ne sont pas faciles à dire, Marty, après avoir été le plus dur des plus durs, si j'ose dire, subira un traitement politique qui est tout à fait inacceptable et inqualifiable. On le traitera de policier, d'avoir voulu faire un groupe à l'intérieur de la direction du Parti communiste, et il se verra infliger des méthodes qu'il avait, disons, laissé faire ou couverte en son temps. Et en 1952 à 54, il y aura une sorte de procès politique de Marty et il sera effacé de l'histoire, effectivement. Mais il a joué un rôle vraiment important, mais en beaucoup d'occasions, il a été celui qui traînait les pieds à chaque fois qu'il y avait des politiques de rassemblement, pour aller vite, hein, de rassemblement. Et lui, il était un peu dans une figure... il se comparait souvent un peu du point de vue de l'histoire politique française à Blanqui, quoi. Hein, celui qui avait été enfermé, celui qui avait été réprimé, mais qui était porteur des grandes valeurs de la Révolution en France. Et donc, par rapport à la JC, c'était un personnage qui était important, parce qu'il était une sorte de référence pour tous ceux qui disaient « attention, ne perdons pas notre âme ». En faisant l'élargissement de la JC, parce que l'Union Républicaine, il était contre, à fond contre la transformation de la JC à la libération. Voilà.
Merci.
C'est moi qui vous remercie. Je